Chapitre 48. Le 23 août 2016, 8h. Cervone Spinello aimait se lever tôt, marcher dans le camping avant que les touristes se réveillent, arpenter les allées désertes, écouter les ronflements sous les tentes, les soupirs parfois, compter les bouteilles de vin vide au pied des barbecues froids, passer sans bruit devant les campeurs enfuis dans les duvets. Il s'imaginait une allure de châtelain arpentant son domaine, saluant ses gens, ses paysans, évaluant la récolte future, prometteuse, assurant un ordre, une harmonie, par sa seule présence. Cervone aimait se lever tôt, mais pas trop. 7h30 le réveil, 7h45 le saut du lit. Annika, sa femme, était opérationnelle chaque matin une bonne heure avant lui et se tenait à l'accueil à boucler les comptes, gérer les stocks, pointer les entrées et sorties. Un rituel qui lui permettait dès l'aube d'être entièrement disponible pour les premiers campeurs qui viendraient réclamer leur petit déjeuner, leur journal du matin ou des idées d'escapade pour la journée. Parfaite. Annika ne leva pas la tête de son tableau Excel lorsque Cervone passa devant elle avec son café. Cervone n'ignorait pas que, dans son dos, les gens se posaient des questions. Annika venait de fêter ses 40 ans et possédait une énergie d'animatrice adolescente, autoritaire et dure en affaires avec les fournisseurs, tendre et patiente avec les enfants, pulpeuse et rieuse avec les hommes, affable et bavarde avec les femmes, conversant en 6 langues européennes dont le corse et le catalan. Annika était une ancienne véliplanchiste, venue un été du Monténégro, échoué B de Rečica. Cervone l'avait arraché à son petit copain, un parvenu kosovar qui était reparti tout seul dans son 4x4 Chevrolet. Logiquement, les gens s'interrogeaient. Qu'est-ce qu'une femme si charmante, compétente, intelligente, faisait avec un tel con? Lui. Pour être honnête, Cervone se posait chaque matin la même question. Qu'il puisse l'avoir séduite il y a 20 ans, égarée sur une plage, admettons. Mais qu'elle soit restée. Avec le temps, elle s'était forcément aperçue qu'il était menteur, calculateur, baratineur. Il fallait donc admettre que les femmes les plus parfaites ne pouvaient aimer que des types abîmés, torturés, fissurés. Un peu comme les milliardaires qui pratiquent la charité. Peut-être même qu'Annika restait avec lui par pitié. « Mon Dieu !» fit soudain Annika sans quitter l'écran des yeux. Elle avait pris l'habitude, parmi ses autres tâches matinales, d'éplucher l'ensemble des informations locales. « Quoi ?
Ils ont identifié le noyé de la baie de Crovani. C'est ce qu'on craignait depuis hier. C'est Jacob Schreiber. »
Cervone grimaça.
« Putain, ils savent ce qui s'est passé ? Aucune idée. Il y a seulement 3 lignes sur le site de Corse Matin. »
Cervone enfonça sa main droite dans sa poche, crispant sa paume sur les clés du trousseau qui la déformait. Il devait dire quelque chose. Vite, un truc qui paraîtrait naturel aux yeux de sa femme.
Je passerai ce matin à la gendarmerie de Calvi. Je demanderai au capitaine Cadena, il m'en dira plus.
Il se hâta de sortir de l'accueil. Il savait qu'Annika était attachée au vieil Allemand, comme à tous les clients fidèles du camping. Il n'avait pas envie de lui jouer la comédie, pas ce matin du moins. Il s'éloigna dans l'allée la plus proche en essayant de faire le point. Ces derniers jours, avec la disparition de l'Allemand, il était parvenu à gagner du temps, tout comme avec les saloperies qu'il avait balancées à Clotilde sur son frère. Mais désormais, les taux se resserraient, trop de monde s'approchait de la vérité. Ce n'était pourtant pas le moment de tout faire foirer. Son palace roc et marais sortait de terre. Le vieux Cassanou avait été emmené d'urgence à l'hosto. Bref, l'avenir s'annonçait radieux. Il suffisait de tenir encore un peu. Il continua son inspection et s'arrêta devant le local à poubelle. Les chats avaient crevé les sacs, éparpillant des papiers gras, des miettes de polystyrène, des briques de lait écrasées. Saleté. Une nuit sur deux, ces bêtes errantes recommençaient. Il leva les yeux. Un autre salarié des Euproctes était déjà debout, plutôt que lui, hors sous. L'ogre boiteux avançait en tirant un interminable tuyau. Il était chargé d'arroser l'ensemble du camping entre 9h du soir et 9h du matin, avant que le soleil ne sèche dans la seconde toute goutte versée sur la terre craquelée. Le directeur du camping attendit qu'Orsou s'approche.
« Putain, je t'ai déjà dit pour les chats !»
La firme observa son patron, sans répondre, sans réagir.
« Bordel, chaque matin c'est pareil !»
Chervonet ne pouvait pas engueuler les chats, il fallait bien trouver un coupable. Il éparpilla du pied les détritus.
« Dégueulasse !»
En insistant un peu, rien qu'en s'énervant, sans même qu'il ait à le demander, ce débile d'Orsou était capable de poser son lit de camp devant le local à poubelle et de les surveiller toute la nuit. Ça l'occuperait. Orsou adorait se rendre utile, adorait obéir, adorait se faire engueuler.
« Faut se débarrasser de ces bestioles !»
Ne rien demander, juste suggérer. Orsou, aussi demeuré qu'il soit, avait grandi dans une bergerie. Il devait savoir s'y prendre avec les bêtes nuisibles, les attraper, les étrangler, les égorger.
« C'est ton boulot, merde !»
Le regard d'Orsou s'allongea. Chervonet y devina une esquisse de sourire, comme si cet abruti réfléchissait déjà à un plan pour piéger ses matous, à une façon cruelle de les faire souffrir. Orsou avait une tête de tueur, et lui avait toujours fait peur depuis qu'il était petit. Un jour, il tuerait quelqu'un, si ce n'était pas déjà fait, si Cassanou ne le lui avait pas déjà demandé. Après tout, se rassura Chervonet, tout en s'éloignant, en exploitant ce monstre, en l'occupant, en lui proposant de défouler ses pulsions sur des chats, il rendait service à la société. Il se tourna un instant vers la pinède qui descendait en pente douce vers la grotte des veaux marins, ferma les yeux, comme il le faisait chaque matin, et remplaça dans sa tête les arbres squelettiques par la piscine à débordement de 600 mètres carrés surplombant la Méditerranée, dont il avait déjà fait tracer les plans par un architecte d'Ajaccio. Il ne lui manquait plus qu'un prêt de la banque, et le permis de construire. Oui, l'avenir s'annonçait radieux. Cependant, lorsque le patron des Euproctes passa devant le local où était entassé le matériel de sport et de plein air, une nouvelle alerte s'alluma. La porte n'était pas fermée. Encore un truc qu'Orsou n'avait pas vérifié. N'importe qui aurait pu entrer et se servir, alors qu'il y en avait pour des dizaines de milliers d'euros de matériel, entre les équipements de plongée, de canyoning et les kayaks. Il pesta. Il entra. Ramassa une corde de rappel mal enroulée. Un instant, il repensa au mousqueton du baudrier, celui qui avait cédé dans la gorge de Zoïkou, après que Valentine l'avait enfilé. Il avait moins de scrupules aujourd'hui qu'au moment où il avait desserré ce morceau de laiton, tordu la tâche juste ce qu'il fallait. Finalement, tout s'était déroulé comme prévu. Tout s'était bien terminé. La petite Valentine s'en était sortie avec une grosse frayeur. Suffisante, espérait-il, pour éloigner cette petite fouineuse de Clotilde. Raté. La gamine était bien partie, avec le mari, mais en lui laissant l'emmerdeuse sur les bras. Une emmerdeuse qui allait finir par tout comprendre. Quel choix avait-il désormais? Le vol du portefeuille dans le coffre de leur bungalow n'avait rien donné non plus, si ce n'est d'en savoir plus sur la petite fille de Cassanou. Quel autre choix avait-il à part la faire disparaître elle aussi? Sauf que si c'était une chose envisageable dans son cerveau de provoquer un plongeon dans l'eau du nado, de commander le meurtre de chat, ou même de planter presque par accident une boule de pétanque dans la tempe d'un vieil Allemand gâteux, c'en était une autre de devenir un meurtrier de sang-froid. Tout ce baratin sur l'écorce, les vendettas et les assassinats, l'omerta dont on s'assure à coups de beretta, ce goût de la violence qui coulerait dans les veines insulaires. Quel délire. Pour un Cassanou Idrissi, froid et déterminé, il naissait entre Ajaccio et Calvi 99 types incapables de tirer sur autre chose que sur un sanglier ou une bécasse. Il devait pourtant trouver une solution pour se débarrasser de cette avocate trop curieuse. Il tourna la tête vers l'extérieur du local. Orsou avait disparu de son champ de vision. Déjà parti à la chasse aux minets? Machinalement, Chervone et Spinello se pencha sur les combinaisons de plongée. Ce branleur d'animateur n'avait rien rangé. Ni les combinaisons de néoprène, ni les masques, ni les tubas. Même les pistolets harpons étaient en bordel. N'importe qui aurait pu en attraper un. Le patron du camping se pencha, replaça le matériel dans les caisses ou sur la patère, tria, compta. Il disposait de l'équipement complet de pêche sous-marine pour 8 plongeurs adultes. D'ailleurs, il en manquait un. 8 combinaisons, 8 compresseurs, 8 ceintures de plomb, mais 7 pistolets harpons. Il se pencha, chercha. Sous la table, sous le placard. Rien.
C'est ce que tu cherches ?
Bien entendu, Tchervonnet avait reconnu la voix. L'instant d'après, il reconnut aussi le pistolet harpon, celui qui manquait, braqué sur son cœur.
« Tu devrais mieux ranger tes affaires, Tchervonnet. Tu devrais mieux traiter ton petit personnel. Tu devrais davantage partager tes secrets aussi. C'est risqué de garder seul un tel trésor. »
Cela dura 3 minutes. Une pour que Tchervonnet se décide à parler, presque 2 pour qu'il avoue l'inimaginable, moins 1 seconde de silence après sa confession, pour qu'il espère un pardon. Dès qu'il eut fini, pourtant, il comprit que sa sincérité ne lui sauverait pas la vie. La dernière image qui lui vint fut celle d'Annika, la première fois qu'il l'avait vue, Bé de Rechiza. Elle avait 23 ans. Elle lisait « Lettre d'une inconnue » de Stefan Zweig. Elle était belle comme une fleur qu'on n'ose pas cueillir. Lui avait osé. Tout le reste, tout ce qu'il avait fait depuis, tout ce qu'il avait tenté et raté, c'était pour l'épater. Le doigt pressa la détente. Est-ce qu'au moins Annika le regretterait ? Le harpon se planta dans le cœur de Tchervonnet.